soir, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est réunis en conclave hier à Nairobi au Kenya exigent la cessation immédiate des hostilités à l'Est de la République démocratique du Congo, y compris le retrait du M23 des positions récemment prises. Ces recommandations sont contenues dans le communiqué final de ce troisième conclave des chefs d'État de l'EAC sur la situation de paix et de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont aussi donné des instructions pour que la force militaire régionale qui sera mise sur pied et envoyée en RDC dans les prochains jours cherche à stabiliser et à garantir la paix dans le pays en coopération avec les forces militaires et administratives de la RDC. Cette force régionale devrait également coopérer dans la mise en œuvre du processus de désarmement et de démobilisation, indique le communiqué final. Quelle analyse faire des recommandations issues de ce conclave et notamment la décision de la mise en place de la force régionale? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Giscard Koussema, directeur adjoint de communication présidentielle. Giscard Koussema, bonsoir. Giscard Koussema, merci. Arsène Mouaka aussi est dans ce débat. Arsène Mouaka, bonsoir. Il devra pouvoir nous rejoindre dans un moment. Il est professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette même université. Et enfin, Chobert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Chobert Aguenonga, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est réunis en conclave hier à Nairobi au Kenya exigent la cessation immédiate des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, y compris le retrait du M23 des positions récemment prises. Ces recommandations sont contenues dans le communiqué final de ce troisième conclave des chefs d'État de l'EAC sur la situation de paix et de sécurité à l'est de la RDC. On écoute à ce sujet Giscard Koussema, directeur adjoint de la communication présidentielle.
Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finaux du troisième conclave produit par les State House sur la RDC a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC-Kenya. Enfin, les six dirigeants présents à Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé, à leur tour, des appels au calme.
Giscard Koussema, directeur adjoint de la communication présidentielle. Alors, depuis la diffusion de ces résultats de Nairobi, des polémiques ne cessent d'enflammer, différents documents fusent à gauche et à droite. Alors, vous qui avez accompagné le chef de l'État et qui avez vu les choses de plus près, pouvez-vous nous aider à lever déjà ce qui apparaît comme les premières équivoques? Est-il vraiment mentionné dans le document final noir sur blanc que le Rwanda ne participera pas à la force régionale qui pourrait être envoyée en RDC dès que le moment sera venu. Et dans votre intervention de tout à l'heure, vous indiquez que les chefs d'État ont identifié le M23 comme mouvement terroriste, c'est ce que la RDC avait dit, mais qui n'est pas noir sur blanc repris dans le communiqué final. Comment pouvez-vous certifier la justification de ce que vous venez tantôt de nous dire?
Écoutez, il faut d'abord préciser que le conclave de ce lundi 20 juin 2022 fait suite aux deux premiers conclaves tenus ici même à Nairobi. C'était le 8 avril, date de l'entrée de la République démocratique du Congo à cette communauté de l'Afrique de l'Est. Et puis le deuxième conclave, celui du 21 avril de cette même année. Donc, le premier constat, c'est d'abord que, en l'espace de 2 mois, les choses ont beaucoup bougé par rapport à cette situation de la République démocratique du Congo qui dure depuis près de 3 décennies maintenant. Et c'est donc un succès diplomatique vu sous cet angle-là, dans la mesure où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réussi en l'espace de 2 mois à mobiliser l'opinion tant nationale et internationale.
Mais juste là, Koussema, permettez-nous de rebondir tout de suite. Vous nous direz le moment venu si ceci est un succès ou autre chose. Mais à ce stade, on aimerait quand même avoir le point sur ce que nous obtenons tous ensemble comme information. On se met tous d'accord qu'il y a eu des assises des chefs d'État de l'EAC hier et que ça a abouti à un communiqué final. Mais est-ce que ce communiqué final indique, en tout cas le communiqué officiel que nous pouvons tous retenir comme étant le vrai, mentionne-t-il, selon vous, que le Rwanda ne fera pas partie de la force régionale qui pourrait être envoyée en RDC? Et quand vous indiquez que les chefs d'État ont reconnu M23 comme mouvement terroriste, cela semble n'avoir pas été mentionné noir sur blanc quelque part. D'où tenez-vous toutes ces confirmations?
Écoutez, il y a des évidences d'abord sur lesquelles on ne voudrait pas revenir ici. Donc, par exemple, les pays qui sont agresseurs, donc on n'est plus dans ces débats, on n'est plus au niveau des débats pour dire aujourd'hui quels sont les pays agresseurs de la République démocratique du Congo. On n'est pas non plus dans une polémique pour voir la capacité des nuisances du M23. Donc, les méthodes de ces groupes armés et ce mode opératoire fait de ce groupe un groupe terroriste, et ça, on n'a pas besoin que cela soit reconnu dans un document. Nous voulons préciser ici que, contrairement à la polémique qui enfle au niveau national, le conclave de ce lundi n'a produit qu'un seul document. C'est ce communiqué final qui a été produit en anglais et traduit en français. Donc, il circule beaucoup de documents sur la toile, il s'agit des faux. Donc, le seul document, c'est les communiqués du troisième conclave des chefs de l'État sur la République démocratique du Congo, un communiqué qui a été produit par les State House, le palais présidentiel de Nairobi. Deuxième précision, ces documents qui est en 10 points ne donnent pas tout le détail sur des opérations. Qu'on se le dise, les documents acceptent un principe, mais si vous le lisez de très près, vous allez voir à travers des paragraphes bien précis, lorsque vous prenez le point 3, 4 et 5, et nous pensons que Radio Capi dispose d'une copie de ces documents, vous allez voir que les chefs d'État ont adopté les documents dont le détail se trouve entre les mains de responsables des chefs des armées. Ils ont accepté et adopté ces documents, et puis renvoie encore, donne du travail à ces responsables des chefs d'état-major pour des questions opérationnelles. Donc, les documents ne donnent pas le détail sur toutes les opérations, ce qui est normal parce qu'il s'agit des opérations militaires. Quant à la participation du Rwanda, cela ne fait pas l'ombre de doute. Nous avons accompagné ces processus depuis le début. Nous sommes encore à Nairobi jusqu'en ce moment. Nous vous donnons avec précision que les forces rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise.
Giscard Kousséma, vous allez aussi nous éclairer sur d'autres éléments qui apparaissent comme des contradictions ou qui nécessitent des précisions. À quoi va servir la force régionale si les M23 quittent leur position? On imagine que toute la situation redevient à la normale. Et quelle mission aurait la force régionale si le M23 n'est plus en RDC, n'inquiète plus le pays et se retire de la RDC?
D'abord, l'erreur que vous commettez, c'est celle de réduire tous les processus de Nairobi au seul groupe armé M23. La République démocratique du Congo est envoyée par de dizaines de groupes armés locaux et étrangers. Il faut remonter jusqu'au premier conclave du 8 avril et celui du 21 avril pour voir toutes les résolutions qui avaient été prises par le chef d'État de la East African Community. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, lors de leur conclave du 21 avril, les chefs d'État, à travers un communiqué, avaient pris la décision, avaient pris deux grandes décisions, deux grandes options. La première option était essentiellement politique, celle d'une reddition volontaire des groupes armés locaux et étrangers. Le M23, on a cru longtemps qu'il était un groupe armé local, mais lorsqu'on voit aujourd'hui ses méthodes et tous ses soutiens, on se rend compte qu'il est finalement entre les deux. On ne sait pas s'il est un groupe national ou étranger, mais en tout cas, entre les deux, il y a donc des groupes armés locaux et des groupes armés étrangers. Et que, aux uns et aux autres, l'ordre avait été donné soit une reddition volontaire, soit une reddition par contrainte. Et aujourd'hui, les chefs d'État ne font qu'activer le volet militaire pour lequel ils s'étaient déjà mis d'accord. C'était d'ailleurs la première option. C'est le président de la République qui a voulu donner une dernière chance aux groupes armés locaux pour une reddition volontaire et que tous adhèrent au processus PDDR-CS. Ce que d'ailleurs beaucoup de groupes armés locaux ont salué. Vous vous rappellerez de ces consultations menées par l'équipe mixte avec le professeur Serge Tshibangu. Beaucoup de groupes armés ont adhéré à cette voie pacifique. Donc il ne faut pas aujourd'hui réduire tous les efforts qui sont entrepris ici à Nairobi au seul groupe armé M23. Alors par contre, ce qui est sûr, c'est que ces consultations ont montré les degrés de nuisance de ces groupes armés qui s'est montré réfractaires au processus politique. Et donc, ils ont choisi l'option militaire et donc, ils seront traités comme tels. Donc, la force qui vient, elle vient pas seulement pour le groupe armé M23, mais tous les groupes armés locaux réfractaires au processus politique et tous les autres groupes armés étrangers.
Merci Giscard Kousséma. Nous vous gardons pour la suite de cette émission. Chaubert Agenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Comment analysez-vous le résultat de ces assises de Nairobi? On retient, entre autres, que les présidents de la République réunis dans ce contexte ont exigé la cessation de toute hostilité immédiatement. Et pour concernant le M23, il demande au M23 le retrait des positions acquises. On imagine que ça signifie aussi que le M23 doit se retirer de la RDC. On constate aussi que le Rwanda que la RDC accuse d'être agresseur n'est pas formellement mentionné noir sur blanc comme tel dans ce communiqué et que le commandement de la force régionale qui pourrait être envoyé dans le pays n'est pas confié à la RDC ni aux Nations Unies comme l'avait souhaité la RDC, mais confié à un État membre de cette communauté. Quelle analyse faites-vous de tous ces éléments?
Bon, premièrement, je tiens à préciser par rapport au fait que le participant à ces conclaves ait exigé aux groupes armés d'arrêter immédiatement avec les hostilités. Je pense que ce n'est pas la première demande à en formuler à la destination ou à l'endroit de ces groupes armés de pouvoir renoncer aux hostilités On se rappellera que lors du dialogue de Nairobi auquel avait pris part le représentant de certains nombres de groupes armés, entre autres les M23, les mêmes recommandations étaient formulées, mais qui n'ont pas pu se traduire en actes sur le terrain, donc qui n'ont pas pu être respectées. À mon humble avis, c'est une énième recommandation et de facto une recommandation de trop. Mais la question qui me paraît la plus importante, c'est le fait que le participant à ce conclave ait exprimé leur volonté de mettre sur pied une force régionale de l'EAC. Et j'en profite pour rappeler que l'EAC, c'est la communauté est-africaine qui réunit cet État, dont le dernier État à y avoir adhéré, c'est la République démocratique du Congo. Alors, la mise en place de cette force est évidemment conforme aux dispositions de l'article 124 du traité de l'EAC, mais lorsqu'on a lu les dispositions, et du coup, il apparaît une contradiction, une aberration, voire un paradoxe flagrant. Je le traité sous le bras, je voudrais lire le troisième alinéa, ainsi libellé. Les États membres c'est le deuxième alinéa. Les États membres s'engagent à promouvoir et à maintenir les relations de bon voisinage en tant que base de promotion de la paix et de la sécurité au sein de la communauté. Donc c'est là où l'horizon s'assombrit. La question que l'on se pose est comment comprendre que cette communauté déploie une force en vertu de cet article, dès lors que nous savons que le pays agresseur de la République démocratique du Congo sont les pays membres de l'EAC. Il n'y a pas que le Rwanda, mais également l'Ouganda. Il faut désigner le mal par son nom. Nous avons vu en sous les images, le M23 est entré à Bunagana à travers le territoire ougandais. Donc du coup, la complicité de l'Ouganda dans l'instabilité de la République démocratique du Congo n'est pas à démontrer. Mais par ailleurs, je suis un peu perplexe parce que au sein même de cette région, plusieurs engagements ont déjà été signés. Je m'en vais rappeler que le 24 avril 2021, la République démocratique du Congo avait déjà signé un accord de défense avec le Kenya, et le 9 décembre 2021, la RDC a déjà signé un accord de coopération militaire avec l'Ouganda, en vertu de quel accord les troupes ougandaises se sont déployées dans une partie du territoire de Beni et de la province de l'Ituri. Alors il faudrait combien d'accords pour arrêter les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo? Mais même si on pouvait mettre un terme aux hostilités, là je tiens à le rappeler à votre intervenant de tout à l'heure, qu'il n'appartient pas aux puissances extérieures de venir rétablir la sécurité en République démocratique du Congo. En revanche, c'est une mission régalienne de l'État. Il appartient en revanche, j'en profite parce que c'est important, en revanche, il appartient aux institutions de la République démocratique du Congo de donner le moyen au FRDC pour mettre un terme à tout le bande subversif qui écume la partie orientale du pays.
Chobert Aguenonga, à lire bien votre pensée, pour vous, c'est pas judicieux d'accepter une autre force extérieure pour venir établir la sécurité en RDC, et du coup, cette force régionale n'est pas vraiment la mieux indiquée en ce moment.
Mais c'est en même temps une force parallèle, parce que l'on est sans ignorer qu'il y a une mission internationale qui est déployée en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Il s'agit de la MONUSCO. Et quel va être le mandat de la nouvelle mission que l'on veut déployer dans l'est de la République démocratique du Congo? Mais où est-ce que cette force va se déployer dès lors que nous savons que la province de l'Ituri et celle du Nord-Kivu sont placées sous aux états de siège depuis plus d'une année? Mais que devient aussi l'état de siège dans ces contextes? Et la question de financement, qui est-ce qui va financer cette mission? Donc, ce sont autant de questions auxquelles il faudrait répondre. Mais je crois qu'il ne faudrait pas être un pétibilisateur pour dire qu'il s'agit ni plus ni moins d'un projet mort-né de la paix. La stabilité de la RDP, on ne le dira pas assez, ne dépend pas de ses forces, de ses puissances régionales, de ses puissances extérieures. Il appartient aux responsables des institutions de la République démocratique du Congo de mettre en place une approche efficace et proactive. Et cette approche ne doit pas se reposer sur les puissances extérieures. Voyez-vous, nous ne sommes pas un État sous tutelle. Nous sommes un État souverain. Nous devons le rappeler, je pense, à ceux qui sont à la direction du pays. À ce titre, nous devons plutôt faire preuve de cette souveraineté, c'est-à-dire nous devons donner le moyen, mettre sur pied une armée qui soit à mesure de défendre l'intégrité territoriale, une armée qui soit à mesure d'assurer la sécurité des institutions et des civils.
Merci, professeur Chaubert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire. Nous continuons aussi avec vous cette émission. Arsène Mwaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette même université. Professeur, quelle est l'analyse que vous faites globalement des résultats de cette réunion de Nairobi?
Oui, je voudrais constater, comme tout le monde, que la RDC a des soucis sécurisés et de pacifier l'est du pays depuis plus de 20 ans. Et cette difficulté a poussé à ce que plusieurs thérapies soient envisagées. Et aujourd'hui, qu'il y a une force régionale, l'East African Community, pour pouvoir tenter d'aider à résoudre ce qu'ils appellent le conflit, avec cycle défini le, c'est-à-dire un conflit, eh bien, il y a lieu de se poser cette première question de savoir de quel conflit parle-t-on quand on dit le conflit. C'est à ce sens que, pratiquement de manière claire, on s'est dit, ça peut être la toute dernière menace, c'est-à-dire La menace du M23 avec Kigali à son arrière. Et si c'est cela l'approche, c'est-à-dire si ce que l'on considère comme menace à la sécurité congolaise et ce que l'on désigne comme conflit qui va mobiliser la force régionale, c'est uniquement le M23, il convient peut-être de constater qu'on rentre encore dans la même erreur de tous les jours qui consiste à mal lire la situation d'insécurité permanente à l'est de notre pays et l'impossibilité de résoudre le problème.
Arsène Mwaka, nous allons continuer à analyser avec vous, mais globalement, doit-on considérer cette participation de la RDC à cette réunion comme une erreur qu'il fallait éviter? Globalement, la RDC a-t-elle gagné quelque chose de cette réunion ou pas du tout?
Bon, je pense qu'elle mobilisait quand même les pays voisins et les convaincre qu'il y a des difficultés dans notre pays constitue un plus. Mais je ne semble pas être convaincu qu'en lisant les communiqués, que l'analyse a été correcte. Parce qu'il y a plusieurs menaces à la sécurité à l'Est. Maintenant, on ne sait pas si cette force va s'occuper du M23 ou va s'occuper des Twagiraneo ou bien va s'occuper, je ne sais pas, des milices Maïmaï sous plusieurs appellations, Malaika ou Kunakule, ainsi de suite. On ne sait pas s'ils vont s'occuper de l'ADF, on ne sait pas. Donc jusque-là, ça semble être touffu. Et comme c'est militaire, on espère et on souhaite que ce soit plus clair dans le laboratoire militaire que ça ne l'est sur le plan médiatique.
Mais est-ce que la RDC a en ce moment besoin d'une autre force supplémentaire, notamment cette force régionale, pour agir dans son pays ou pas? Les missions et la taille pourraient être compléter ce chemin faisant, mais globalement, la RDC a-t-elle en ce moment besoin d'une force comme cette force régionale ou pas?
Nous avons essayé plusieurs forces, à commencer par notre propre force, et les limites sont claires, tout le monde sait le voir, et il n'est pas peut-être moins intelligent et imprudent d'essayer une autre force. Et de mon point de vue, je ne pense pas qu'il y ait un problème de pouvoir essayer une autre force pour essayer de résoudre les problèmes, comme je venais de le dire. La difficulté, c'est de dire pour résoudre quel problème, puisque si c'est cela, on va démultiplier encore les milices et les rébellions et ressusciter celles qui sont déjà en dormance.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Jusqu'à Koussema, cette émission fait souvent aussi appel aux Congolais eux-mêmes, de leur propre voix, qui partagent avec nous leurs préoccupations pour vous. Et vous allez réagir après aux commentaires de cet auditeur Gilbert.
C'est Gilbert Wajibudu qui est depuis Bukavu au site Kivu. Les recommandations ici de ce conclave, notamment la décision de la mise en place de la force régionale, j'ai conclu c'était un rendez-vous manqué et une humiliation, si pas une trahison nationale. On ne peut pas résoudre un problème avec ceux qui ont créé le même problème. Messieurs les journalistes, pendant que le peuple est mobilisé pour soutenir le FRDC, le président signe des accords mettant en place, dans les prochains jours, une fameuse force dite régionale qui serait composée par les mêmes pays que nous décrions agresseurs. Nous avons comme impression que nos dirigeants ont un autre plan qu'ils n'ont jamais réussi à matérialiser, et voilà comment ils s'embourbent dans les spéculations malheureusement qui ne font qu'endeuiller la nation. La solution pour la situation de la paix et de la sécurité qui prévaut dans l'est du pays, c'est juste, comme on l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre, car les négociations n'ont jamais abouti à un résultat escompté depuis des décennies.
Jusqu'à vous, Sema.
Merci beaucoup. Oui, nous pensons qu'il s'agit là d'une mauvaise lecture de la situation actuelle. Permettez-nous de rappeler aux uns et aux autres que, en adhérant à la communauté de l'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo a automatiquement souscrit au principe sacro-saint de cette institution sous-régionale qui dit que lorsque un membre est attaqué par une force négative, tous les autres font corps pour le combattre. Et c'est donc en vertu de ces principes sacro-saints de la East African Community pour promouvoir la paix et la sécurité que la République démocratique du Congo donc a voulu mettre ceux qu'on a toujours considérés comme faisant partie du problème. Et ce n'est pas à nous de le rappeler ici. On a souvent dit que tous les pays voisins font partie du problème. Et donc, on ne peut pas résoudre ce problème, contrairement à ce que cet auditeur la pense, sans associer tous les autres. Et donc, c'est ça d'abord le mérite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que d'avoir mobilisé ceux qui font partie du problème, les mettre devant leurs responsabilités. Et les résultats sont là, peut-être qu'on n'en parle pas. Le dernier conclave du 21 avril avait demandé aux pays voisins de pouvoir engager un processus politique avec leurs forces négatives. Le Burundi a été le tout premier à donner des résultats clairs. Et le président de la République, j'ai été à Bujumbura il y a 2 semaines, a clairement dit qu'il est prêt à engager un dialogue avec les FNL et le Red Tabora et tous les rebelles burundais. Voilà, ça c'est déjà une ouverture. Nous attendons la même chose avec ceux qui traînent, notamment les Rwandais avec leur FDLR, et tout comme les Ougandais avec les ADF. Ça, c'est déjà une mobilisation, et que ce processus de Nairobi, aujourd'hui, est soutenu, non seulement par la communauté nationale, parce qu'on l'a vu à travers les consultations nationales, les leaders locaux des 3 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo se sont montrés donc favorables à un retour de la paix. Les groupes armés également ont répondu à cette invitation, une 50aine au total, et tous se sont montrés d'accord pour adhérer au processus PDDR. Et ça, c'est aussi un résultat qu'on n'a jamais obtenu depuis une 20aine d'années.
Alors, jusqu'à Koussema.
Sur le plan militaire.
Jusqu'à Koussema.
Non, aujourd'hui, non, nous allons terminer.
Allez-y.
Vous pouvez me laisser terminer? Oui. Donc, j'ai parlé de cette mobilisation nationale. Au plan sous-régional, donc, il y a donc cette activation de ces mécanismes de l'EAC pour combattre ensemble ces forces négatives. Non seulement pendant qu'il y a des opérations qui se font ici, mais également
dans leur propre pays, mais au plan international également. La MONUSCO a donné toute sa logistique pour les consultations avec les groupes armés. L'Union européenne a déclaré publiquement qu'elle se fait le porte-voix de la République démocratique du Congo pour mobiliser tous les partenaires traditionnels, mais également les soutiens de taille du département d'État américain. Nous avons été reçus il y a moins de deux semaines également, tout comme le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est dire que lorsque ce n'est pas parce qu'on a échoué depuis une vingtaine d'années qu'on reste dans la fatalité et qu'on ne peut plus rien faire. Donc, parallèlement à ce qui s'est fait au plan diplomatique, il y a cette autre option militaire. Alors, tout à l'heure, vous avez posé la question, pourquoi les Kenyans? Mais on vous rétorque, pourquoi pas les Kenyans? D'abord, il est membre de cette communauté. Le Kenya garantit une certaine neutralité par rapport à la République démocratique du Congo parce qu'il n'est pas un voisin d'abord immédiat, parce que tous les autres voisins, surtout de la partie orientale, la partie est, font partie du problème parce que non seulement certains soutiennent ouvertement des groupes armés, mais les groupes étrangers qui sévissent viennent de ces États. Et donc, on ne peut pas résoudre ces problèmes sans impliquer ces autres États. Donc voilà.
Merci.
Nous pouvons aujourd'hui
Merci.
À juste titre qu'en l'espace de deux mois, il y a eu des avancées significatives pour donner une solution à cette question de l'Est. Il y a une force, il est vrai, des Nations Unies qui a fait près de 20 ans ici avec des résultats assez mitigés. Peut-être par manque de connaissances du terrain, mais maintenant ce sont les acteurs. Mais lorsque ces forces arrivent, c'est la souveraineté de la RDC qui est bradée. Non, la République démocratique du Congo, suivant le conclave du 21 avril, que vous avez les documents avec vous, stipule clairement que le volet militaire est piloté par la République démocratique du Congo. Les Kenyans prend certes les commandements, simplement parce qu'au niveau des chefs d'état-major généraux de sept pays, c'est le général Robert Kibochi, qui est le chef d'état-major général du Kenya, qui est le président du comité des chefs d'état-major de la communauté d'Afrique de l'Est.
Donc, merci, Giscard Kousteva. Vous l'avez dit plusieurs fois.
Ce pays a été choisi pour commenter les opérations, mais il y a des détails qui ne sont pas dans les communiqués, qui relève d'ailleurs du secret défense, c'est normal, il s'agit des opérations, mais rassurez-vous, les chefs d'État ont pris cette option après une étude minutieuse du rapport qui leur a été présenté par les chefs d'État-major de tous les États, de sept États de la communauté d'Afrique.
Merci Giscard Kousteva, nous vous écouterons encore sans doute une dernière fois quand nous allons faire les conclusions de cette émission. Professeur Chaubert Aguenonga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, de géopolitique et de sociologie militaire, vous allez aussi réagir à Jonas qui partage son commentaire.
Je suis Jonas Kambale depuis Oïcha au Nord Kivu. Formuler la recommandation est une chose et leur application en est une autre. Est-ce que les forces présentes au pays ont échoué pour amener d'autres? Je pense que l'on devait d'abord compter sur la capacité des FARDC et demander au pays accusé d'être derrière les groupes armés de retirer ces groupes armés sur le sol congolais. Si cette force doit intervenir, il faut bien définir son rôle à jouer pour atteindre l'objectif.
Professeur Chaubert Aguenonga? Professeur Chaubert Aguenonga? Professeur Arsène Mwaka, professeur à l'université de Kinshasa et chercheur au centre d'études politiques de cette université, avez-vous bien perçu le message de notre auditeur tout à l'heure?
Oui, je pense que notre auditeur a en partie raison, c'est-à-dire pas au part signé à l'extérieur et qu'on souhaite que les autres viennent nous aider. Il va falloir que de l'ordre règne dans nos propres dossiers, c'est-à-dire il va falloir que notre armée se comporte différemment. Il va falloir que les autorités politiques donnent à notre armée ce qu'il faut, parce que ça fait mal dans certaines situations que je ne vais pas citer ici, que notre armée ait des soucis dans sa logistique, alors qu'à côté d'elle, il y a une force étrangère qui se comporte bien et qui est mieux lotie Et donc, il va falloir qu'on puisse revoir la logistique de notre armée, l'alimentation, qu'on puisse revoir tout ce qui est nécessaire pour le combat, pour que, en invitant les autres, ce ne soit l'occasion de nous trahir nous-mêmes. Et de ce point de vue, l'auditeur a raison. Et j'espère que la présidence de la République va nous aider à pouvoir nous comporter différemment que dans la situation de la mutualisation des forces avec l'Ouganda, parce que il y a quand même des choses qui ne vont pas.
Arsène Mouata, on se rend compte que la RDC a déjà, dans son évolution, fait appel à, en plus de son armée, à des forces extérieures, vous l'avez déjà indiqué, la MONUSCO est déjà là depuis un certain nombre d'années, il y a les Ougandais dans le cadre de la mutualisation. Qu'est-ce qui a vraiment, selon vous, poussé les chefs d'État, en plus de ces forces qui existent déjà, à proposer cette force régionale?
Bon, je crois que les choses sont très claires. Nous sommes dans une position de faiblesse actuellement, de telle sorte que nous avons besoin de la sécurité. C'est une question de survie, non seulement du pays, mais aussi de la population. Mais pour les autres, nous sommes une opportunité. Ils nous prennent pour un marché commercial. Le Kenya, c'est depuis très longtemps qu'il fait du commerce avec nous, et depuis un certain temps, il a tenté de pouvoir renforcer dans une espèce de compétition avec l'Ouganda, qui est aussi en train de monter en nous prenant comme un marché. Et c'est à cela que l'Ouganda organise même que les routes soient mieux faites, qu'on lance des projets communs pour améliorer les routes jusqu'à Kisangani, Bunia et Goma et autres. Et le Rwanda, qui a depuis de tout le temps eu des ambitions de domination politique, lui aussi est en train de changer de fusil d'épaule, non seulement en gardant sa ligne de la domination politique, mais en nous voyant aussi comme un marché que l'Ouganda veut envahir par Bunagana et autres. Et donc, la crainte, c'est de dire, est-ce que tous ces pays qui ont des visées commerciaux sur le Congo ne vont-ils pas s'affronter aussi ici chez nous? Parce que c'est aussi des pays qui ne s'apprécient pas, notamment le Rwanda et l'Ouganda, des politiques quelque peu divergentes par moment dans le verbe. C'est comme s'ils étaient ensemble. Et donc, c'est cette complexité-là qui fait que nous ayons besoin de la sécurité, les autres ont besoin d'avoir un espace sécurisé de commerce qui peut nous profiter. Ça peut nous profiter pour nous remettre en sécurité. Et le tout dépendra de comment nous allons manager la présence de ces forces. Mais le plus souvent, quand les forces deviennent multiples, dans le chaos, que l'on observe avec la présence des autres forces qui sont déjà là.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Giscard Koussema, directeur adjoint de la communication présidentielle. Cette question, c'est surtout les chefs de l'armée et peut-être le président de la République lui-même qui aurait pu y répondre. Mais puisque vous êtes son collaborateur, de ce que vous savez, le président de la République qui a depuis un certain moment mis un accent sur la montée en puissance de notre armée nationale, ne pouvait-il pas, dans cet autre épisode d'insécurité, se focaliser seulement à soutenir l'armée, à lui donner tout le nécessaire pour que l'armée nationale elle-même fasse tout le travail qui lui est proposé aujourd'hui avec l'intervention d'autres forces extérieures?
Écoutez, le président de la République n'a de cesse de dire qu'il fait du retour de la paix à l'est du pays une de ses actions primordial de son premier quinquennat, et qu'il ne ménage pas les efforts pour qu'effectivement la paix vienne dans cette partie. Et cette dernière décision, justement, s'inscrit dans le cadre de cette vision dont le premier résultat sont là. Et vous devez aussi savoir que la situation que vit la République démocratique du Congo est le résultat de certain nombre de politiques, de visions entamées par ses prédécesseurs depuis près de 2 décennies. Et que aujourd'hui, toutes les voies qui mènent vers un retour de la paix en République démocratique du Congo sont exploitées, mais sans compromission ni sans remise en cause de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne justement cette force sous-régionale, si vous lisez bien, vous verrez que l'instruction a été donnée à cette force de travailler en étroite collaboration avec les forces militaires et administratives de la République démocratique du Congo, et que leur mission est très bien définie, et tous les autres détails opérationnels sont également bien étudiés par tous les chefs d'état-major. Donc, la République démocratique du Congo n'est pas une jungle où n'importe quelle force peut venir, ou des forces étrangères viennent combattre. Sinon, cette opération se fera avec des termes bien définis, et que les chefs d'État ont insisté pour que le statut de cette force, les règles d'engagement, des règlements juridiques et techniques pour faciliter l'opérationnalisation de la force régionale soient très bien définis.
Il y a une question juste à vous, Sema.
Nous pensons.
Oui. Est-ce que selon l'esprit des chefs d'État réunis à Nairobi, cette force régionale viendra quand même obligatoirement, même si dans les jours qui viennent, on constate que et le M23 et tous les groupes armés de la RDC qui créent des hostilités et des conflits cessent et respectent la recommandation de cette réunion telle qu'indiquée par les chefs d'État. Cette force viendra quand même malgré tout.
Mais il est clair et les documents le disent, c'est que cette force vient aussi appuyer les opérations de les processus de la mise en œuvre du processus de désarmement et de démobilisation. Et donc, ceux qui vont choisir la voie pacifique avec cette reddition volontaire, je vous informe qu'il y en a déjà très nombreux, comme le FRPI, le FPIC, s'il vous plaît, le FPIC, et d'autres groupes armés qui ont volontairement fait des déclarations, et la MONUSCO est témoin, pour une reddition volontaire, n'auront pas de problème. Mais pour tous les autres, parce qu'aujourd'hui il existe une cartographie des groupes armés aussi bien locaux qu'étrangers, et donc tous ceux-là qui ne s'inscrivent pas dans la voie pacifique vont subir le feu de...
C'est cette force. Merci, Giscard Kousséma, et nous considérons ça comme votre mot de la fin. Professeur Arsène Mouaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Professeur, pourquoi, selon vous, les FRDC ne sont pas responsabilisés entièrement pour pouvoir régler le problème qui se pose aujourd'hui? Est-ce parce que, malgré les évolutions ou les avancées constatées par notre armée, elle est toujours un peu pas suffisamment en mesure d'obtenir les résultats attendus en ce moment-ci?
Oui, je pense que l'armée, c'est un corps et un conglomérat de milices et autres qui sont recyclés. Pour pouvoir faire une armée, il doit y avoir des problèmes de même. Le syndrome milicier qui pratiquement traverse cette armée lui fait des problèmes, mais je sais qu'il y a des éléments qui sont capables de se battre, mais cela demandera encore l'État à la République démocratique du Congo de pouvoir réorganiser les choses. Ce qui fait que les difficultés réelles pour assurer la sécurité, l'intégrité territoriale sont visibles. Mais c'est à ce niveau que c'est le réalisme qui pousse le président à estimer qu'il doit avoir une approche régionale pour essayer de faire face à cette situation délicate. Il a en face de lui une opinion très exigeante qui veut en découdre avec tous ceux qui nous font du mal, mais entre-temps, la force qui doit devoir le faire ne semble pas aller dans ce sens. C'est pourquoi je pense que le Congo doit saisir cette opportunité, et cela est d'ordre politique. C'est au niveau de la politique nationale qu'il faut tenter de capitaliser cette fois-là la présence de ces forces étrangères, sinon ça va tourner comme ça tournait avec les autres forces qui sont déjà là.
Merci, professeur Arsène Mouaka, mais aussi à Giscard Kousséma. Nous remercions également le professeur Chaubert Aguenonga qui est parti de cette émission plus tôt parce que il y a eu d'autres urgences qui ne l'ont pas permis de rester jusqu'à la fin de cette émission. Merci à lui quand même. Billy Landry Betou, Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.